Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Salut tout le monde, nouvelle édition de l'émission Ça tient la route, monsieur McKenna, mes hommages.
Bonjour Benoît.
Alors aujourd'hui, pas un mais deux invités, on fait ça de temps en temps pour essayer de...
Il y en a un de qui je suis extrêmement jaloux en passant.
Ah oui, ah ben oui, ça c'est notre collègue Vincent.
Oui.
Notre collègue Vincent Aubé qui est allé faire l'essai de la nouvelle Z la 2023
ouais.
Du côté de Las Vegas. On pouvait pas vous en parler avant cette semaine parce qu'il y avait un embargo. Et là, comme l'embargo est levé, Vincent va nous en parler. Donc c'est un de nos deux invités. L'autre, on le connaît aussi, c'est Philippe Letourneau. Philippe est instructeur, entre autres, en pilotage depuis nombre d'années. C'est aussi le porte-parole de la Semaine canadienne de la sécurité routière.
Voilà.
On va en parler. D'ailleurs, toi, tu vas en parler dans tes dans tes actualités. Mm-hmm. Puis Philippe va nous parler un peu plus en détail de ce que ça concerne, qu'est-ce qu'on fait. Donner quelques trucs comme instructeur, il connaît très bien la chose. En essai routier, tu nous parles de quoi, mon cher Alain?
Ben écoute, j'essaie la Kia EV6, j'étais curieux parce qu'on a déjà parlé de la Ioniq 5, qui est une espèce de modèle siamois jumeau chez Hyundai, et je voulais voir parce que bien des collègues, je sais pas si tu m'avais dit ça aussi, mais bien des collègues préfèrent la Kia à la Hyundai.
Je fais partie de ces collègues, effectivement.
Et pourtant, c'est la Hyundai Ioniq 5 qui a été nommée voiture de l'année dans le monde, donc je voulais avoir une idée et on en parle plus tard dans l'émission.
Parfait. Moi, j'hésitais parce que j'ai eu deux essais cette semaine, j'ai un Jaguar I-Pace, j'ai dit bon, je pourrais faire de l'électrique comme Alain, on pourrait aller dans le tout électrique.
Oui.
Mais j'ai aussi une Mercedes AMG GT 53 4MATIC Plus. Ça prend une carte d'affaires.
Le nom est plus long que la voiture est longue.
Ah ben attends, il y a aussi le AMG GT 63 SE Performance.
Ah.
Ça c'est le monstre de 831 chevaux. Lui, on ne l'a pas, mais j'ai roulé le modèle, disons, j'aime pas employer le mot raisonnable pour un char de 154 000 $.
Ouais.
Mais on vous en reparlera tantôt. Puis je vous parlerai un peu de ce que c'est, puis où on s'en va du côté de Mercedes avec ça. Puis je pense que je vais garder ma Jaguar pour la semaine passée et la semaine prochaine.
La semaine prochaine, oui. Parce
et
que
j'ai
sinon,
pas oublié.
Voyage dans le temps.
J'ai pas oublié non plus les GMC. Je suis allé essayer le Jetta. On garde tout ça en tête quelque part.
Oui.
On va se trouver du temps pour en faire. Alors, première actu, ben on a un peu vendu de la mèche. Semaine canadienne de la sécurité routière. Parle-moi de ça.
C'est la semaine. Ça dépend parce que là, quand on en parle, ça l'est. Je sais pas quand vous allez nous écouter, si ça le sera encore.
Ben, ça sera la fin, mettons, là, si vous nous écoutez à la radio. Ouais.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a besoin d'une seule semaine de l'année pour signaler l'importance de la sécurité routière. Là. Mais au moins, bon, la semaine choisie semble tout à fait justifiée quand on observe le nombre d'actes d'impatience, je sais pas toi, mais moi, depuis une couple de jours là, sur la route.
De jours, tu dis, alors, depuis un an et demi.
Ah oui, il y a peut-être une impatience sur le...
Je pense que la pandémie a mis à bout beaucoup de gens sur la route. Moi, c'est effrayant. Non, mais honnêtement, depuis un an, là, je me suis fait couper comme jamais je me suis fait couper en auto. Les gens sont pas fins.
Impatience, imprudence, même violence. J'en ai vu des gens signaler. Tu sais, baisser la fenêtre, faire un signal. Hey, viens, viens t'expliquer sur le bord de la route à des gens. Puis t'es comme, mais pourquoi, sérieusement? Soyons courtois, soyons gentils. Bref, il y a du monde pressé, il y a du monde impatient. C'est important de souligner l'événement et pour le souligner à sa façon, le Conseil canadien de la sécurité a publié quelques statistiques issues d'un sondage récent auprès des automobilistes canadiens à propos de leur utilisation des systèmes d'aide à la conduite, parce qu'on en a parlé déjà dans le passé. Ces systèmes peuvent être parfois très intrusifs, n'est-ce pas, voire même dangereux, à la limite distrayants. Et on ne manque pas de relever ici, en tout cas on l'a fait une couple de fois dans le passé, des fois où ils font défaut, ils provoquent même des accidents, donc c'est pas parfait.
Non.
Mais de façon générale, leur impact sur la sécurité routière semble, et en fait, plutôt positif. En tout cas, les organismes spécialisés qui font un lien, qui étudient ces choses-là, font un lien direct entre la mise sur la route de ces technologies au cours des 20 dernières années et la diminution à la fois du nombre d'accidents de la route et du nombre de blessés graves et de décès impliqués dans les accidents. Donc, c'est positif, plus que positif. Alors, ce sondage, qu'est-ce qui nous apprend? Ben, d'abord que trois technologies en particulier sont devenues des incontournables pour la plupart d'entre nous. Je parle des avertisseurs d'angle mort, du régulateur de vitesse Et là, j'ajouterais le régulateur adaptatif, celui qui ralentit quand la voiture devant soi va moins vite. Et des phares de jour automatiques qui sont, écoute, eux sont là depuis éternellement, en fait, là. Mais il y a la nouvelle nuance là-dessus, c'est les phares de route aussi automatiques. Donc, les hautes, comme on dit, qui s'ajustent automatiquement, qui s'éteignent. Ça peut devenir facilement agaçant, mais...
En fait, j'ai déjà suggéré à un constructeur il y a quelques années, parce que je sais que tu le vois comme moi, on suit des gens à la pénombre qui sont sur les phares de jour.
Exact.
Qui sont sur des phares automatiques, mais ça fonctionne pas en arrière.
Exact.
Fait que tu suis une espèce d'auto où tu vois rien. Moi, j'avais dit à un constructeur, j'ai dit, pourquoi vous faites... On oublie, là, il n'y a plus d'interrupteur pour les lumières. Tu pars l'auto, les lumières allument. Ouais. Tu fermes l'auto, les lumières éteignent.
Puis des phares Adèle, c'est bon, 40 000 heures, il n'y a pas de raison, ça ne brûlera pas.
Ça prend zéro énergie en plus. Il n'y a plus de raison aujourd'hui. Je comprends peut-être à l'époque avec les vieux phares halogènes qui étaient chauds, qui prenaient de l'énergie. Puis si tu les oubliais, évidemment, tu vidais la batterie. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est facile avec toute l'électronique qu'il y a à bord d'un auto, là. À part, les lumières allument partout, tout le temps. Fait que de cette façon-là, t'es toujours vu.
Pour aller un peu plus loin, il y a des véhicules, je pense surtout aux véhicules Nissan qui ont juste des feux de signalisation Adèle très puissants. On a l'impression que les phares sont allumés.
Mais
justement, ils sont.
Mais c'est les phares de jour. Exact. C'est ça, absolument.
Effectivement, si on veut aller plus loin, il y aurait effectivement une amélioration de ce côté-là. Mais bref, dans le sondage en question, un automobiliste sur deux dit qu'il n'achèterait pas une voiture sans ces trois caractéristiques-là. Donc, les phares de jour, le régulateur de vitesse et les avertisseurs d'angle mort. Autre caractéristique essentielle aux yeux des Canadiens, la caméra de marche arrière, la caméra de recul.
Ouais, qui est devenue très pratique. Surtout qu'on roule tout en SUV. Qu'on voit rien derrière.
On voit rien parce que la caisse est
trop élevée. On rit, là, mais ça a été une des grandes choses qui a fait que les caméras de recul.
Sont obligatoires.
Tu sais, moi, je m'excuse, dans une Toyota Corolla, quand je regarde en arrière, je vois très bien, là.
Ouais.
Mais dans un VUS avec la fenêtre qui est beaucoup plus haute, tu vois rien. Mm-hmm. C'est pas compliqué.
C'est d'ailleurs un des trois dispositifs les plus utilisés en voiture, là, selon le sondage du Conseil canadien de la sécurité. Bref, en tout cas, moi, je trouve ça très bien. En fait, même, c'est un peu rassurant parce que ces technologies-là, effectivement, les plus appréciées sont réellement utiles. En même temps, permettez qu'on rappelle que rien ne vaut le fait de bien regarder avec nos propres yeux là où on s'en va, que ce soit à reculons ou en changeant de voie. Les caméras aident beaucoup, mais elles ne disent pas tout.
Voilà.
Il ne faut pas non plus s'y fier aveuglément.
Il n'y a rien de mieux que de vérifier de ses propres yeux, effectivement.
Exactement.
Puis pour aller dans la continuité de ce que tu viens de faire, le bilan routier est sorti. Routier du Québec est sorti cette semaine. Bon, écoutez, on dit que la situation est assez stable pour les automobilistes. Il y a eu 347 décès sur nos routes en 2021, ce qui représente 2 de plus que la moyenne des 5 dernières années. Donc, on s'entend qu'on est pas mal à la même place. Par contre, l'année est un peu plus difficile pour les cyclistes et les motocyclistes.
Ah oui.
Et moi, étant cycliste moi-même, je m'aperçois que là aussi, on a encore beaucoup de chemin à faire. Le partage de la route, là, c'est pas facile.
Le bumper dans la piste cyclable en attendant de tourner à droite ou à gauche, c'est toujours un peu embêtant pour
les cyclistes. Ben, il y a ça. Puis, il y a des endroits à Montréal, il y a une piste cyclable, mais tu sais, le long d'une route avec des autos...
Ouais. Le marquage au sol n'est pas toujours optimal.
Bon, exact. Puis, les bornes sont des fois un peu éloignées. Dans le premier cas, bon, on dit, au niveau des cyclistes, il y a eu 16 décès cette année. C'est 6 de plus que la moyenne annuelle. Mais les motocyclistes, il y a eu 67 décès. Ça, c'est une hausse de 27 %. Ouf. C'est beaucoup de monde. Le seul groupe qui s'en sort mieux cette année, c'est les piétons. Un nombre légèrement en baisse, 52 décès face à 54 en 2020, alors que la moyenne était de 69 entre 2016 et 2019. Donc, on soupçonne que, bon, Piéton Québec, je ne savais même pas que ça existait, moi, Piéton Québec. Il y a un organisme qui s'appelle Piéton Québec, dit que probablement que le couvre-feu qu'on a imposé a peut-être aidé aux statistiques, le fait que les gens sortaient pas le soir, littéralement.
Surtout pas en auto.
Puis il y avait moins de monde en ville aussi. Ouais. Tu sais, donc, probablement que ça a aidé la cause. Si on se compare, on dit qu'on se console. Du côté des États-Unis, 43 000 morts sur les routes cette année.
Pas
4 300, là. 43 000.
C'est un petit village qui disparaît à chaque année.
C'est la hausse la plus forte qu'on a connue aux États-Unis. C'est 10,5% de plus. Et c'est l'année la plus élevée depuis 2005. On regarde, là, on est en train du côté du National Highway Traffic Safety Administration. On analyse un peu pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on avait des chiffres très élevés. Si on regarde 1973, qui est toujours l'année de référence au Québec, on avait eu 2209 décès sur la route cette année-là. Alors, il faut dire que depuis 50 ans, le trafic a triplé sur la route. mais les décès ont tombé à 347. Certains vont dire c'est encore trop.
Un décès c'est un décès de trop.
Ouais, un décès est un décès de trop, mais la sécurité, hein, on en parlait tantôt sur les véhicules, fait en sorte que, bon, on a des véhicules beaucoup plus sécuritaires aujourd'hui, mais il y a encore trop de décès selon beaucoup de gens. Tu me parles aussi, autre nouvelle...
Ouais, je vais aller fermer mon compte Twitter avant de la sortir, celle-là, parce que je vais me faire vilipender par les fans de la marque, mais les voitures Tesla, entre autres, sont victimes, en tout cas, sont sans être la cible, sont susceptibles d'être victimes d'une faille de sécurité majeure, et le problème, c'est qu'elle est peut-être irréparable. C'est une faille dans le protocole Bluetooth là, qui affecte la sécurité de centaines de millions de, en fait, d'appareils connectés, par exemple, des serrures pour la maison.
Ouais.
Et ça touche aussi certaines voitures Tesla. C'est un problème qui s'appelle, en fait, qui je vais recommencer cette phrase-là. C'est un problème qui touche un protocole qui s'appelle le Bluetooth Low Energy ou BLE. C'est une espèce de sous-version du protocole Bluetooth là, qu'on connaît, qui permet de jumeler son téléphone avec sa radio d'auto, entre autres, qui est assez récent. Là, ça remonte à peut-être 3-4 ans, ce protocole-là.
Okay.
Qui permettrait, en fait, aux gens mal intentionnés de verrouiller à distance n'importe quelle serrure sans nécessairement avoir en main l'appareil de confiance qui permet de déverrouiller l'appareil.
Donc, on rend le vol du véhicule encore plus simple.
Exactement. et ça se fait avec des... En anglais, ils disent avec des gadgets, des appareils électroniques off the shelf, donc des choses qu'on peut acheter au magasin du coin.
Oh, ben vous allez à votre magasin d'électronique préféré et vous partez avec tout ça.
Donc, ce protocole Bluetooth en question envoie un signal pour détecter quand un appareil fiable est à proximité et quand c'est le cas, il active ou il déverrouille sa serrure ou peu importe. Ce qu'il faut faire pour de jouer le protocole, c'est tout simplement d'utiliser un relais qui renvoie le signal capté de l'appareil fiable en question, comme un téléphone intelligent, peu importe où cet appareil-là se trouve sur la planète, et de le relayer donc à la serrure ou en tout cas au capteur sur la voiture ou sur la serrure qu'on a. Ça se fait, bon, évidemment, là, ça a été fait dans un contexte, c'est des chercheurs en sécurité informatique d'une compagnie britannique qui s'appelle le NCC Group, qui ont découvert la faille et qui ont démontré ça en déverrouillant à distance puis en prenant les commandes de modèle Y de Tesla. Donc, quand on dit que les Tesla sont susceptibles, c'est arrivé pour vrai, donc c'est applicable.
Et si on peut soulager les propriétaires de Tesla, ça peut probablement arriver avec plein d'autres modèles aussi.
Ben, l'affaire, c'est que dès qu'on peut utiliser un téléphone ou un appareil avec le protocole Bluetooth, c'est applicable. Ça veut pas dire que c'est unique à Tesla, mais ça arrive. Mais cela dit, c'est assez rare, c'est ce genre de... Mais c'est nouveau, c'est émergent. Je pense qu'Audi ont la même fonction, BMW aussi.
Exact.
Il y a une grosse mauvaise nouvelle en plus de tout ça, c'est que cette faille en question-là ne peut pas être corrigée à l'aide d'une mise à jour logicielle, donc le micro-logiciel ou peu importe. C'est pas une faille logicielle, c'est vraiment juste de reproduire un signal de confiance qui est à l'extérieur du dispositif.
Il faudra changer le système.
Fait que c'est vraiment l'équivalent de numérique, là, de copier une clé puis d'utiliser le double pour déverrouiller la porte. Fait que là, on a un problème parce que ça reproduit, dans le fond, une faille de sécurité qui existe depuis toujours sur toutes les serrures, mais là, en version numérique. Donc, évidemment pardon, l'idéal pour se protéger contre ce type de menace-là, ce serait d'éviter d'acheter des appareils qui utilisent une technologie comme celle-là, qui, en passant, n'a pas été conçue pour servir de dispositif de sécurité. Donc, ça, c'est la première affaire.
Ah oui, OK.
Évidemment, on vit pas dans un monde idéal, donc il faudra probablement se rabattre sur le fait que les chances sont quand même assez minces qu'une paire de pirates là situés un peu partout dans le monde tente de voler le signal de votre téléphone pour le relayer à votre voiture située ailleurs sur la planète. Mais quand même, ça en dit long sur l'imprudence des gens qui développent ces technologies-là.
Comme dire à l'autre, ça se peut.
Ben, il y a toujours la possibilité donc faites attention, n'est-ce pas? Si vous pouvez éviter le recours à ces choses-là, si vous pouvez ne pas acheter de serrure connectée pour la maison, ou en tout cas une serrure qui n'a pas ce protocole Bluetooth-là.
Ben, on le sait, tout ce qui est électronique est piratable, et on se met à l'abri si on en a moins.
C'est le jeu du chat et de la souris. T'inventes une technologie, quelqu'un va la déjouer.
C'est ça. Mon voisin dit, moi, j'ai encore le meilleur système au monde. Ma clé rentre dans la porte, puis je la débarre. Si le gars, il a pas la clé, il peut pas rien faire. Il y a aucune électronique là-dedans. Alors, il y avait quand même des avantages. Une petite vite en terminant, Alain. Oui. On aurait, et je parle au conditionnel, on aurait annoncé dans un journal de Corée, selon des informations de gens près du dossier, que la Sonata ne reviendrait pas sous peu. C'est-à-dire que, oui, il va y avoir un rafraîchissement du modèle pour 2023, 22-23, mais qu'il y a rien de prévu. Parce que, généralement, on travaille 5 à 6 ans d'avance sur un nouveau modèle. Donc, techniquement, en 2019, on aurait dû commencer à travailler sur un nouveau modèle. Il y a rien de fait. Oh. Fait que on est probablement en train de laisser tranquillement la Sonata partir pour probablement remplacer avec un autre VUS, évidemment. Là.
Ouais, ou d'électrique ou quelque
ou
chose.
Ou d'électrique qui va arriver, mais il semblerait que c'est cette année et l'année prochaine, et après ça, c'est... Bye bye. Alors, on ne la reverra pas. Je parle au conditionnel parce que c'est de l'information qui vient d'un journal coréen qui ne vient pas de chez Hyundai. Alors voilà, nous, on va passer à une première pause et on va recevoir notre ami Vincent Aubé tout de suite après qui va nous parler de la Nissan Z 2023.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, notre prochain invité est un collègue. Il travaille aussi à l'annuel de l'automobile depuis des années. Et la voiture dont on va parler était sur la couverture de l'annuel d'automobile l'an dernier. Ah. C'est la Nissan Z, la nouvelle Nissan Z. Et Vincent, qui est un amateur de tuning, de performance, lui-même propriétaire de Mitsubishi Evo, était bien heureux. En fait, il a fait une entorse à son protocole de ne pas trop sortir pendant la pandémie. Puis il s'est rendu à Las Vegas pour essayer l'auto. Salut Vincent!
Salut vous autres!
Alors, tu t'es laissé tenter parce que le modèle était effectivement intéressant. Parle-nous un peu comment ça s'est passé là-bas, la première rencontre avec la Z.
Bien, je peux tout de suite d'emblée vous dire que Nissan avait prévu un format un peu différent de l'habitude. Quand on commence avec une voiture sport, on commence sur la route, on y va tranquillement, on s'habitue à la voiture.
Ouais.
Puis là, cette fois-ci, on a commencé directement sur le circuit de Las Vegas Motor Speedway.
OK, beau circuit.
Donc, ça part fort. Beau circuit.
Oui, effectivement.
Ça part fort, mais on trouvait ça curieux. Là, on en discutait avec les collègues. Puis pourquoi on commence sur la piste? Mais en même temps, comme disait un de mes collègues, c'est peut-être là où on peut s'habituer un peu plus facilement à la voiture. Donc, dans un endroit contrôlé, sécuritaire. Donc, on a fait de l'accélération. Il y avait même l'ancienne 370Z pour comparer.
OK.
Puis, wow, quel saut! Hein? L'ancienne 370Z datait de 2009.
On est passé de 350 à 370, mais bon, avec sensiblement, à part le moteur où on a ajouté un peu de puissance, le reste, ça n'avait pas bougé beaucoup depuis toutes ces années-là. Là.
Ouais, qu'est-ce qui change principalement, Vincent, sur le nouveau modèle?
Ben, la grosse différence, c'est le nouveau moteur V6 biturbo 3 litres qui était déjà disponible à bord de l'Infiniti Q50 ou Q60 Red Sport. Moteur qui développe 400 chevaux et 350 livres-pieds de couple. Fait qu'on est rendu ailleurs, là. Il y a beaucoup plus de puissance. Moteur beaucoup plus moderne, avec quelques technologies empruntées à la GTR, là. Donc, une boîte manuelle retravaillée.
Ouais, parce qu'il y a une boîte manuelle. Oui, il faut le dire, parce que du côté d'Infiniti, il n'y a pas de boîte manuelle.
Non. Donc, la boîte manuelle, c'est rapport. Et je dirais d'emblée que c'est celle qu'il faut privilégier si vous êtes un amateur de sensations fortes. Par contre, la nouvelle boîte automatique à 9 rapports, qui est dérivée de la 9 rapports utilisée à toutes les sauces chez Nissan, mais fortement modifiée pour la voiture, là, allégée notamment.
Ouais, puis je pense que les rapports sont plus rapprochés aussi. Hein? On le fait un peu plus sportif. Ouais.
Donc c'est pas la même boîte, c'est pas la même chose que dans une autre voiture. Là. On a vraiment une boîte
adaptée. C'est pas comme c'est pas la même boîte que le Pathfinder. Mettons,
c'est un autre extrême, j'espère.
Non. Mais il y a quand même des similitudes entre les deux boîtes. Mais je peux vous dire qu'à l'accélération, c'est la boîte qu'il faut privilégier, qu'il faut choisir. Mais bon, on n'achète pas une Z seulement pour l'accélération. Et voilà. Alors, on a fait de l'accélération très surprenant, très impressionnant. Sur le circuit, par contre, la voiture s'est montrée très molle. On se rappelle que l'ancienne Z était une voiture un peu rustre.
En fait, oui, très, très raide. On peut dire très raide, là. Oui, absolument.
Et là, dès les premiers virages, on s'est rendu compte que la voiture, c'était pas une voiture de circuit, finalement.
Okay.
En revanche, En après-midi, on est allé faire un tour dans les belles routes des environs de Las Vegas, puis c'était pas sur la strip, là, on est allé ailleurs dans les routes sinueuses, puis
ouais,
là...
Il y en a des belles en plus dans ce coin-là.
Il y a des belles routes, oui. Mais il faut le dire aux gens, c'est des parcs nationaux qui entourent Las Vegas, et très souvent, les limites sont extrêmement basses. On peut rouler des fois 30, 40 000 à l'heure. 50, c'est à peu près le maximum qu'on va voir là dans les parcs nationaux autour. Donc, c'était pas une mauvaise idée d'aller à la piste parce que vous auriez roulé petit train toute la journée ou à peu près.
Mais la bonne nouvelle, c'est que le confort est de retour à bord de la Z. Là.
Okay.
La voiture est beaucoup plus douce, beaucoup mieux insonorisée et franchement, ça tape moins fort dans le dos. Seul bémol, les sièges qui ressemblent beaucoup aux sièges de l'ancienne version. C'est pas bon, je peux vous dire aussi que avant de partir pour Las Vegas, j'étais au volant de la Toyota GR Supra à moteur 4 cylindres. Puis bon, on sait que ces sièges-là sont d'origine BMW.
Oui. Très confortable. Oui.
Très confortable, contrairement à ceux de la Z. Donc, la Z est beaucoup plus confortable qu'avant, mais les sièges...
OK, mais j'aurais pensé, Nissan qui vend toujours sa technologie zéro gravité pour ses sièges, qui auraient été capables d'adapter un zéro gravité pour la Z? T'as l'air que non.
Réponse éloquente.
Oui, je vous le dis, là, j'ai vraiment regardé les photos des deux versions, là, de l'ancienne et de la nouvelle, puis ce sont les mêmes sièges à quelques...
OK. Chose intéressante aussi, là, on part avec la même plateforme. On n'a pas essentiellement changé la plateforme qui est là depuis 2009, là.
Non, c'est la même plateforme. On le sait que ça coûte des coûts exorbitants pour développer une nouvelle plateforme d'une voiture sport qui va se vendre
en petit volume.
Bon, ouais, on s'entend, c'est une niche, là.
Le châssis est plus rigide, on le sent. Nissan nous parle de 10-11%, je crois, je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est une petite bonification au niveau de la rigidité. Donc on le sent, mais c'est pas. Puis on le voit d'ailleurs, là, quand on regarde la planche de bord à l'intérieur, les bus de ventilation à droite et à gauche sont identiques à celles de la 370Z. Donc il y a des indices qui pointent vers ce partage de plateforme là.
Okay.
Le design extérieur, par contre, on voit que le museau est plus long à l'avant à cause justement que
on le fait plus moderne. On le fait plus moderne, puis probablement aussi pour le bénéfice du nouveau moteur aussi, parce que c'est un moteur turbo, là, faut que ça respire. Ouais.
Il y a un petit clin d'œil visuel aux anciens modèles aussi, là.
Ouais, absolument. Oui, absolument.
À l'avant la 40Z, puis à l'arrière la 300ZX, désolé.
Ouais, l'arrière assez carré, là, effectivement, là, qui rappelle ces modèles-là. Et mon Dieu, ça, c'est le premier que j'ai roulé en voiture de presse. On recule!
Vincent, parle-moi un peu, parce que moi, si j'avais à choisir, j'irais pour un Roadster. Il n'y aura pas de Roadster sur cette version-là?
D'après ce que j'ai compris avec Tarumasan, le spécialiste de la Z, qui était sur place d'ailleurs au lancement, il n'y en aura pas. Évidemment, Nissan, c'est toujours la même règle. On ne parle pas des futurs produits. J'ai même essayé de leur sortir des verres du nez pour une éventuelle Z électrique. Et ce que Nissan nous dit, c'est on fera pas de Z tant qu'on sera pas capable de reproduire les performances d'une Z avec un moteur électrique. Autrement dit, j'ai comme impression que la technologie des batteries actuelles est trop lourde pour reproduire une Z aussi performante que la
ou il faudrait mettre beaucoup de piles, puis là, à ce moment-là, tu perds l'intérêt au niveau de la conduite. Là.
C'est ça.
Version Nismo, version parce que si on le sait, là, on commence généralement par la version régulière. Ouais. Après ça, on t'annonce une Nismo. Après ça, on t'annonce une décapotable. On veut-tu un peu étirer la sauce de ce côté-là ou on va avoir juste la saveur à la vanille?
C'est une très bonne question. Je peux au moins vous dire que les freins à disque avant de la version performance, qui sont plus gros que ceux de la version sport, le modèle de base. Ces freins-là, ces étriers-là, sont directement, ce sont les mêmes que l'ancienne 370 Nismo.
Okay.
Et je peux vous dire qu'au co-freinage, la voiture était assez efficace. Mais pour ce qui est d'une version Nismo, Mathieu, c'est bouche cousue.
On n'est pas rendu là chez Nissan, puis Nissan sont parmi ceux qui sont les qui parlent le moins avec Honda, là. Et Seigneur, qu'on a de la misère à lui tirer vers du nez. Là, on parle de prix. Ça coûte combien, ça?
Ben là, c'est là qu'il y a un gros changement, je vous dirais, parce que si vous vous rappelez bien, la version de base de l'ancienne voiture, 30 498.
Exact.
Là, le prix de base, 46 498.
Ah oui, il y a une petite marche. C'est un tiers de plus, ben oui. Ça, là. Mm-hmm. Ça commence, oui. Même pas crème, c'est la moitié de plus.
C'est la moitié du prix de base.
C'est la moitié du prix de base de plus. C'est
puis
pas
ça grimpe jusqu'à 65 748 pour la proto-spec à boîte automatique, la plus dispendieuse de la gamme.
OK, OK. Donc, ça, la proto, là, ça va être en quantité infinisimale. Il y en aura pas gros, j'ai l'impression.
C'est seulement pour 2023, puis okay. À part pour les collectionneurs, c'est sans intérêt à mon avis, parce que outre les roues de couleur bronze puis quelques surpiqûres à l'intérieur, y a pas grande différence avec une.
C'est le même moteur, sans même suspension, sans même boîte, y a rien là de plus. En fait, c'est une performance avec un peu d'extra. Là.
C'est ça.
Okay. À 47 000, est-ce qu'elle vaut son prix?
Ben, pour quelqu'un qui veut une voiture sport pour se promener dans la vie de tous les jours, pourquoi pas? Pour quelqu'un qui veut faire de la conduite de performance, j'irais avec la version performance, le nom est assez clair, pour le différentiel à visibilité, pour les jantes plus grosses, pour le freinage plus mordant. Mais pour quelqu'un qui veut juste une voiture sport, pour s'afficher, pour s'amuser, la version sport de base de boîte manuelle est parfaite, là.
Ah ouais, ouais. Puis bon, la bonne nouvelle, c'est que le confort est amélioré. Ça, c'est déjà un plus parce que moi, je dis toujours à la blague, il faut être en bas de 40 ans pour l'ancien modèle, là, parce que ça tapait. Là,
on va rarement sur la piste.
À part si tu fais partie d'un club et t'as accès à la piste, mais autrement, on n'y va jamais. Intéressant. Donc, Alain disait, pas de version, en tout cas, annoncée de décapotable. Toi, dans ton choix, là, tu regardes demain matin, tu aurais à choisir ta place où la Z, Vincent?
Mettons, dans, là. Dans le
segment. Ouais, dans le segment, là. T'as un Boxster, t'as un.
Golfer, t'as plein d'affaires dans cette espèce de créneau à 40 000
kecs, là. Bon, j'ose pas mettre la Jaguar là-dedans, là. C'est un autre gang. Mais tu vois quoi, là, comme concurrent à ça, toi?
Ben, la concurrente directe, je suis obligé de dire que c'est la GR Supra. L'ennui, que pour le moteur 6 en ligne, et la version est beaucoup plus dispendieuse. Là, fait que à ce niveau-là, la Nissan Z est plus intéressante.
Oui, parce que tu es rendu à 70 avec la 6, là, du côté de la Supra, qui n'est pas donnée. Ouais.
Non. Donc,
À 46,7, c'est une bonne affaire pour ce que tu as.
Oui, puis à ce niveau-là, on parle plus d'une Ford Mustang 4 cylindres ou d'un Camaro de 4 cylindres.
Okay.
Où on vient même coiffer les GR86 et Subaru BRZ, qui sont des voitures beaucoup, franchement, moins puissantes.
Plus modestes,
plus modestes. OK. Fait que finalement, quand on met ça, tu sais, ça a l'air de beaucoup sur le coup de main, mais quand on met en relief ce qui vient faire la concurrence à ce modèle-là, ça tient la route. L'a plugué.
Oui, excellent jeu de mots. Je pense que Nissan a gardé son côté abordable, qui était la prémisse.
Je me rappelle, quand l'année où on avait annoncé à 29 998 la Z, là, ça avait été comme une petite renaissance du modèle. Là, on avait vendu un peu plus. Puis pour 30 000, même si la voiture était un peu vieillotte, un peu raide à conduire, t'avais quand même une vraie voiture de performance pour 30 000. Là.
Absolument.
Oui. Fait que ça reste dans les mêmes tales. Bon, ben, on a bien hâte d'essayer ça de notre côté. Merci d'avoir été là, mon Vincent. Puis, quand il y aura d'autres essais comme ça, on se reparle.
Absolument, ça fait plaisir. Bonne journée, les gars.
Merci.
Salut,
c'était Vincent Aubé. D'ailleurs, vous pourrez lire l'article de Vincent dans l'annuel de l'auto 2023. D'ailleurs, il me l'a déjà envoyé. On est déjà là-dedans. Alors, absolument. On prend tout ce qui arrive d'avance. On est bien heureux. Alors, merci encore à Vincent Aubé. Et nous, on va aller à la pause. Et après la pause, on a avec nous Philippe Letourneau.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Notre prochain invité est le porte-parole de la Semaine canadienne de la sécurité routière. C'est aussi un instructeur de course depuis nombre d'années. Il a animé Canada's Worst Driver. Je sais pas si moi quand je veux me détendre, j'écoute ces missions-là parce que ah oui, non, non, moi je trouve ben écoute, c'est quand même drôle. Je vous le présente, Philippe Letourneau. Salut Philippe.
Benoît.
Alors, ben merci d'être là, Philippe. Et c'est ça, on parlait. Bon, c'est Philippe est ancien pilote canadien de NASCAR. En français, là, c'est les pires chauffeurs canadiens. Si voilà. Vous l'avez vu, moi je le regarde plutôt en anglais. C'est aussi un spécialiste de sécurité automobile parce que comme instructeur, on n'a pas le choix. Il faut connaître les voitures d'un bord à l'autre. Et nous, on se connaît. On va se tutoyer, Philippe, parce que ça fait depuis à peu près que je suis dans le métier que je te connais. Philippe m'a montré la moitié des choses que je sais faire dans un véhicule. Alors, donc, on s'est croisé souvent au Mont-Tremblant, où tu es aujourd'hui, d'ailleurs, Philippe. Parle-nous un peu de ça, ton implication avec la Semaine canadienne de la sécurité routière. D'abord, pourquoi t'as embarqué là-dedans? Puis, qu'est-ce que tu trouves intéressant comme défi?
Ben, je fais pas juste de l'enseignement de la conduite haute performance. Je pense que d'avoir des conducteurs plus alerte, plus sécuritaire sur nos routes publiques, c'est super important. C'était une des raisons pourquoi je m'étais impliqué avec Canada's Worst Driver. Moi, j'ai un cousin très proche qui est décédé justement d'un accident de la route, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis justement, l'évolution des systèmes électroniques à travers les années, c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, comme tu sais, je suis assez vieux que j'ai vécu le avant ABS et le après ABS. J'aime bien voir comment les voitures ont évolué. Là.
On se rappelle des premiers systèmes d'ABS sur GM qui réfléchissaient à peu près une fois 3 secondes.
Ça a beaucoup évolué.
Ça a beaucoup évolué, mais effectivement, l'ABS a été sur des voitures allemandes. Moi, les premiers modèles Mercedes que j'ai essayé, l'ABS, c'était la grosse affaire. Là. Puis on a tranquillement démocratisé ces systèmes-là pour justement les amener un peu partout. Là. Mais est-ce que tu as encore aujourd'hui beaucoup d'éducation à faire auprès des gens pour bien connaître leur véhicule?
Oui, j'ai remarqué que même à travers les années, là, on s'entend que ça fait quand même longtemps, exemple, que les ABS sont sur les voitures, les gens ont encore beaucoup de difficulté à comprendre comment qu'ils fonctionnent puis quoi faire quand le système engage. J'ai tellement de gens qui pensent qu'il faut enlever la pression sur la pédale de frein. Il y a beaucoup d'éducation encore à faire. Là.
Ouais, les gens pompent encore avec un ABS, c'est ça?
Oui, ben même cette semaine, j'avais un jeune... je te dirais début vingtaine, ça fait que c'est pas tellement longtemps qu'il conduit, puis on lui avait enseigné là, exemple, pour tenir ses mains à 10h02. Fait que je trouve ça drôle qu'on enseigne encore des vieilles techniques qu'on va pas s'évoluer, nous, comme instructeurs, comme pour leur donner les bonnes façons de faire. Là.
Exact. Autre sujet qui est intéressant, la conduite préventive. On en parle souvent. Tu l'as enseigné depuis toutes ces années-là. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple aux gens pour faire de la conduite préventive de tous les jours quand on est dans sa voiture?
Ben déjà, à la base, un des commentaires que je fais qu'on n'entend pas souvent, trouvez-vous une bonne position de conduite? La position de conduite, c'est la base de bien manœuvrer le volant, les pédales. Je pense que moi, Benoît, à tous les jours, là, je vois des drôles de positions de conduite. Des fois, je vois même le conducteur là, dans la voiture tellement qu'il est couché comme dans son salon. J'ai déjà vu des gens avec leurs pieds sur le pilier A. Je sais pas comment ils faisaient.
Des gens souples. J'en vois
de toutes les sortes à tous les jours. Il y en a qui n'ont pas confiance en leur voiture. Ils tiennent le toit ou la porte. La position de conduite à la base, c'est la chose la plus importante. Là. Tu dois être capable d'opérer ton véhicule. Puis juste en m'en venant, justement, Benoît Tremblant, j'ai évité un chevet. Là. Vraiment, c'est un évitement d'obstacle à 120 km/h. Si j'avais eu une mauvaise position de conduite, j'aurais pas eu le temps de me placer avant de faire un mouvement. Donc, déjà, la base, là, positionnez-vous correctement devant vos contrôles un peu plus près. Là.
Puis c'est ça. Puis, tu sais, on parle souvent d'automatisme au volant. Tu sais, le temps de réaction est important, mais de bien connaître la voiture permet de réagir rapidement. Puis c'est souvent la fraction de seconde qu'il nous faut pour éviter un obstacle, pour éviter un objet, pour éviter un accident. Donc, il faut que ça devienne une seconde nature, mais pour être capable de faire ça, il faut bien connaître le véhicule qu'on conduit. Tu sais, moi, Alain comme moi, on change de véhicule tous les lundis, littéralement, parce que c'est le métier qui veut ça. Mais tu sais, moi, chez nous, une fois j'arrive, je vais toujours m'asseoir une demi-heure dans le véhicule, puis prendre le temps de comprendre où sont les choses, parce que d'une version à l'autre, d'un modèle à l'autre, d'une compagnie à l'autre, il y a des choses qui changent. Il y a certaines choses qui sont pas au même endroit. Puis tu sais, si dans un moment d'urgence, tu te mets à chercher, il est trop tard, là. Tu viens de le perdre, là. Donc, c'est important. Puis l'autre aspect, je pense, Philippe, l'électronique aujourd'hui, on a parlé brièvement des freins ABS tantôt. L'électronique embarquée, si je te demandais de me donner ton avis là-dessus, les plus, les moins, qu'est-ce qu'on a qui en fait de meilleurs véhicules et qu'est-ce qu'on a qui en fait peut-être des véhicules un brin plus compliqués, puis des fois un peu, ça sème un peu la confusion.
Ben, je pense que ça évolue assez vite, mais tu sais, on discutait tantôt d'ABS, on pense maintenant aussi, on peut penser au système anti-patinage. Je dirais plus aujourd'hui une voiture sans ABS puis sans antipatinage. Donc, tout ce qui est en train d'évoluer, ça va se placer, c'est sûr et certain. Les gens vont être de plus en plus familiers avec ces systèmes-là. Mais je pense qu'à la base, c'est du positif. La seule chose qui m'inquiète des fois, c'est sûr que je suis conducteur et instructeur dans l'âme, mais j'espère juste que les gens vont pas juste se fier justement au système électronique. À la base, tu dois être responsable du véhicule en tout temps. Là.
Exact, parce que, bon, on voit, il y a des gens qui, des fois, font de confiance un petit peu aveugle, mais il y a un sondage qui a été réalisé par CarGurus qui dit qu'il y a 70% des Canadiens qui croient finalement que les dispositifs d'assistance à la conduite rendent les déplacements en voiture plus sécuritaires. Donc, il y a une adhésion, je pense, du public de ce côté-là. Puis on regarde aujourd'hui, et puis tu sais, on le voit dans les publicités. Dans les publicités, on parle de quoi? On parle de technologie, on parle d'électronique, on parle plus jamais du moteur, on parle pas de performance. Bon, à moins qu'on fasse une annonce de Corvette, là, mais à part de ça,
on parle beaucoup
de sécurité. Donc, c'est devenu vraiment là, le sujet omniprésent. Mais parce que c'est aussi le sujet numéro un en haut de la liste quand les gens regardent un véhicule. T'en as roulé beaucoup, toi aussi, Philippe. Y a-tu des marques, des sortes ou des gadgets ou je te dirais certains items technologiques que toi, tu préfères par rapport à d'autres?
Ben, comme je te disais tantôt, je pense que tous ces systèmes-là vont évoluer et les gens vont être de plus familiers avec ça. Puis même si moi, je trouve que je suis un pilote alerte, je trouve que les gens, je vais être désolé de dire ça, mais les gens conduisent de plus en plus mal. Je sais pas ce qui s'est passé dans les deux dernières années. Manque de respect.
Beaucoup d'inflation.
On en parlait en début d'émission. Je pense que la pandémie a mis à la patience à l'épreuve de beaucoup de gens parce que moi aussi, j'ai remarqué ça sur les routes que la courtoisie a pris un peu le champ gauche, là, dans bien des niveaux, là.
Ouais. Ben, j'aime bien, tu sais, comme, c'est drôle, mais des fois, je suis de Montréal métropolitain, il y a des gens qui font des changements de voie ultra rapides, juste d'avoir des détecteurs là, qui peuvent t'aider à voir que quelqu'un qui veut peut-être prendre ta place qui n'a pas vu que tu étais là. C'est le genre de système que je pense que c'est bénéfique, mais encore une fois, il ne faut pas se fier juste à ça non plus.
Exact, exact. Question que j'avais un peu plus personnelle. Ton été qui s'en vient, ça a l'air de quoi? Parce que bon, on a eu des étés tranquilles au niveau des courses, au niveau des circuits. Là, ça a repris tranquillement là, cet été-là.
Ben moi, comme le monde savent, je suis un peu quand même dans l'événementiel. Tu sais, ça reste que j'ai besoin d'événements pour mon métier. Ça a été un peu plus dur, évidemment, dans les deux dernières années, quoique j'ai eu la chance de faire des événements justement avec toi aussi. Mais cette année, c'est reparti en fou, là. Les gens, on voit qu'ils ont hâte de conduire, de faire des événements. Je te dirais que depuis un mois et demi, là, j'ai pas arrêté deux secondes. Puis je suis bien content de ça. Puis juste de parler de la conduite, ça faisait longtemps aussi, fait que j'apprécie le fait que tu me reçois là, de reparler aux gens de conduite automobile. Mm-hmm. Ça me fait toujours plaisir.
Bon, ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, Philippe. Ça a été très apprécié. Je rappelle que Philippe Letourneau est le porte-parole de la Semaine canadienne de la sécurité routière. Ça se déroule du 17 au 23 mai. Puis il faudrait être courtois aussi les 51 autres semaines de l'année.
2023, ben oui, c'est ça.
Merci encore, Philippe Letourneau. Salut bien.
Merci à vous.
Bye, Philippe.
Bonne journée. Salut. Alors voilà, c'était Philippe Letourneau. Il nous reste un petit peu de temps. Je vous rappelle qu'on a tantôt, on va continuer en version balado. Il nous reste quelques minutes pour la version radio, la portion radio de l'émission. Puis on n'avait pas parlé encore de notre chronique écolo-auto de la semaine, ce qu'on va faire. Mais avant d'en parler, je voulais vous dire comment on peut écouter notre balado.
Abonnez-vous.
Je
n'avais pas parlé. En plus, il y a du bonus à la fin de cette émission aussi.
Voilà, il y a du bonus, donc ça vaut la peine. Mm-hmm. C'est évidemment Google, Spotify, Apple. Vous pouvez aller sur C23, donc les stations du groupe Cogeco, le 98.5 à Montréal, où on enregistre.
Exact. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait capter nos balados sur Pocket Cast récemment.
Ça, ah bon, ben voilà.
C'est un agrégateur de balados, donc
cherchez-nous
sur
est
les
là
plateformes
aussi.
Et abonnez-vous. On va vous livrer nos émissions à chaque
et
semaine.
Et en vous abonnant, on est là, on vous livre ça. On fait aussi une mise à jour sur annuelauto.ca chaque semaine, donc vous pouvez l'écouter là aussi. Notre chronique écolo-auto de la semaine, on va parler des 10 véhicules 2022 que vous pouvez avoir dans un délai raisonnable chez le concessionnaire. Ça existe.
On est rendu là.
On est rendu là. Hey, c'est pas drôle. On fait une chronique avec ça. C'est pas des farces. En fait, il y a des modèles pour le moment qu'il faut oublier, là. Tous les modèles que tout le monde va avoir, là, Ioniq 5, on parlait de ton Kia EV6 tantôt, le Toyota BZ4X, la Porsche Taycan, le Model X chez Tesla, le ID4 chez Volkswagen.
Ah oui, il faut plus que l'oublier. Mais...
On est à 2 ans, 3 ans dans certains cas. Donc, pour ceux-là, là, écoutez, vous pouvez appeler, mais c'est dans 2 ans. Minimum, il n'y a rien avant ça. Par contre, il y a certains modèles que l'offre est un peu plus intéressante. On parle d'un Chevrolet Bolt. Là, évidemment, il y a un rappel, c'était long. Mais on a recommencé à en fabriquer tranquillement. Puis la beauté de la Bolt, c'est que c'est le véhicule électrique le moins cher du marché.
C'est plus facile à rentabiliser, entre
ben
guillemets.
Oui, vous avez 415 km d'autonomie, mais à un prix qui est à 38 000 et des prunes. Bon, ajouter le transport, la préparation, les taxes, puis enlever le 12 000, on arrive quand même dans les 32, 33 000 à peu près. Là. Donc, ça vaut largement la peine.
Même
c'est un beau modèle.
La version EUV aussi est pas mal.
Oui,
plus.
42 000, un petit peu plus cher, mais un petit peu plus grande aussi. Donc, je pense que si vous avez une petite famille, le EUV est plus intéressant en termes de format que la Bolt ordinaire. Mm-hmm. Audi e-tron, c'est encore le e-tron régulier, on s'entend, pas le Q4 e-tron.
Ouais.
Qui n'est pas encore arrivé. Et je me suis informé, c'est 2 ans, c'est 25 mois, là, si vous prenez une commande aujourd'hui. Parce que c'est un modèle, éventuellement, que j'haïrais pas. Je suis allé m'informer. Fait que je vais attendre encore un peu, ça a l'air. Les Tesla qui venaient assez rapidement, là, on n'est plus rapidement chez les Tesla. Là. On a fini par manquer de puces, comme tout le monde, même si on avait changé le système. Il y a eu des problèmes pour l'approvisionnement en batterie aussi.
C'est qu'il y a beaucoup de Tesla sur la route, donc les acheteurs sont nombreux. Là. Il y a une grosse demande.
Fait que là, il y a quelques mois d'attente, mais c'est encore raisonnable pour le modèle 3, pour le modèle Y. Il y a moins de 6 mois si vous êtes chanceux.
Okay.
Il y a le Hyundai Kona EV qui part avec la même batterie que le Bolt. Donc, vous avez à peu près 400 km. Ça aussi. Puis bon, la MX-30 chez Mazda, évidemment, si vous avez que 160 km à faire
ça
l'été maximum,
sinon,
l'hiver, vous allez souffrir un peu. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il est encore possible d'acheter un véhicule électrique malgré la pénurie de pièces. Il est possible d'obtenir un véhicule électrique avec une excellente autonomie assez moderne pour les Bolt UV et EUV. Mm-hmm. J'ai appelé pour le fun parce que j'ai posé la question à des gens qui vendent des véhicules électriques d'occasion. Il y en a, c'est ça. Ça se trouve ça.
On trouve ça où?
Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup. J'ai parlé à quelques, je vais le nommer à Montréal Autoprix en plus pour le nommer. Mais il y en a, on crie famine là. Il y en a très, très peu, parce qu'on est difficiles à trouver. Il y a quelques exemplaires de e-tron GT ici et là, mais là, il faut avoir des sous.
Faut vouloir l'avoir, ben oui, c'est
oui,
ça.
Oui, oui, c'est très cher. Mais bon, si vous allez dans les modèles, puis il y a Niro là qu'on pouvait aussi trouver là,
qui, est Niro, hein?
qui était dans des modèles possible.
Mais ça devrait s'améliorer. Il y a quand même, comme BMW arrive avec des modèles.
On parle
il y a des
qu'à partir de 2023, ça va y améliorer, mais pour le reste de l'année, on est là. Alors, là, c'est la portion radio qui prend fin. Merci d'avoir été avec nous. On vous invite à rester là, parce qu'on va aller après ça à la version balado. Salut!
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, vous êtes en supplémentaire. Oui, oui, ça existe. Oh, oui. On est en supplémentaire de Ça tient la route.
On n'en fera pas trois, d'ailleurs.
On n'en fera pas trois. C'est comme les rappels d'un show. On va faire un rappel, ouais, puis on en aura assez après. Alain, évidemment, oui. On n'a pas fait nos essais routiers. On voulait parler de ça. T'as roulé le modèle EV6 et je sais que les gens sont extrêmement curieux.
Oui.
Parce que effectivement, on le disait, ceux qui ont écouté avant la pause que des EV6, ils sont beaux, mais il n'y en a pas.
Non, exact. Puis, tu sais, c'est le modèle sœur ou cousin, en tout cas, de la IONIQ 5 chez Hyundai. Puis, la IONIQ 5, on en a vu beaucoup sur la route, en fait, rapidement.
Ouais.
Et c'est un véhicule qui, même si visuellement assez distinct, il est relativement anonyme dans le sens où la voiture passe et les gens ne réagissent pas. Le EV6, sérieusement, fait tourner les têtes. Donc, il y a vraiment une demande. Et des gens m'ont arrêté dans la rue, m'ont dit « Hey, comment tu trouves ça? » Parce que j'en ai commandé un. Et évidemment, il y a un an et plus d'années.
Oui, c'est ça. Je l'ai commandé un il y a 4 ans. On dit que je l'aurai dans 6 ans.
Il va l'avoir un jour. Cela dit, au concours annuel là, de la voiture mondiale de l'année, la Kia V6 s'est terminée au deuxième rang quand même en 2022, justement derrière la IONIQ 5 de Hyundai. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça doit être très serré, étant donné que les deux modèles partagent essentiellement la même plateforme et une stratégie de prix qui est pas tellement différente de l'un à l'autre, là, même si le V6 coûte une petite affaire plus cher que sa contrepartie chez Hyundai, n'est-ce pas?
Exact.
Dans le cas de le V6, pardon, ça démarre à 47 000 $ et ça grimpe, selon les modèles, à un peu plus de 64 000 $ donc on peut payer cher si on veut. Évidemment, là, je parle pas de l'aide gouvernementale, mais ça s'applique et là, ça rabaisse un peu le prix. Du lot, il y a juste le modèle de base, celui qui permet justement d'avoir cette aide-là à l'achat du gouvernement, qui hérite d'une pile de moindre capacité. Elle fait 58 kWh, alors que partout ailleurs, on a droit à 77 kWh, quand la pile est pleine, évidemment. L'autonomie varie de 373 km par charge dans le cas de ce modèle-là de base à 441 pour les versions à 4 roues motrices, parce que de base, c'est 2 roues motrices à l'arrière. D'ailleurs, il y a une version à 2 roues motrices qui atteint 499 d'autonomie. Ça, c'est le modèle, appelons-le, intermédiaire,
ouais.
ou mitoyen, si vous aimez les mots peu utilisés. Écoute, moi, je ne sais pas à quel point on peut avoir besoin de 4 roues motrices sur un véhicule de ce genre-là, ce qui fait que si j'avais à choisir, je pense que cette version-là, là, roues motrices arrière, à longue autonomie,
propulsion, ouais.
Ouais, à 55 000 $ m'apparaît comme la meilleure option sur le V6, même si sa puissance est un peu moins, là, 225 chevaux contre 320 pour le V6 à 4 roues motrices.
Mm-hmm.
Deux roues motrices à l'arrière, bon, c'est peut-être un peu moins évident pour certaines personnes l'hiver, mais avec de l'aide électronique à la conduite, avec le poids accru du véhicule à cause des batteries, évidemment, personnellement, je vois pas de problème à conduire seul l'hiver. En fait, 12 mois par année. Évidemment, bon, là, il y a la question de l'autonomie, mais ça, on finit par s'y habituer, veut pas. Parce que même si on en a moins l'hiver à cause du temps froid, on s'ajuste, n'est-ce pas?
Exact.
Et si on avait à comparer ce modèle avec son jumeau, IONIQ 5, on se rend compte assez vite que le V6 est un peu plus agréable à conduire quand même. Juste au premier coup d'œil, on le voit un peu. Là, IONIQ 5 a plus l'air d'un utilitaire, hein, un petit peu plus arrondi. Peut-être un peu plus classique,
ouais,
dans son design.
J'ai trouvé le V6 plus nerveux, moi.
Ben, j'allais dire, le comportement du IONIQ 5 est un peu plus près de celui d'un utilitaire, justement. Le V6 a une silhouette, bon, évidemment, un peu plus effilée, peut-être plus futuriste aussi, plus aérodynamique, ce qui représente bien son comportement général. L'aérodynamisme, justement, là, doit aider parce que son autonomie semble moins affectée par les vitesses d'autoroute un peu plus élevées. Là où normalement on draine la pile plus rapidement parce qu'on consomme plus d'énergie.
C'est clair.
Dans ce cas-ci, j'avais 367 km d'autonomie au compteur quand j'ai démarré la voiture et ça a été assez représentatif de la distance totale parcourue sur la première charge durant laquelle j'ai essayé le véhicule. Et dans cette charge-là, j'ai fait un trajet Montréal-Québec.
OK.
Et à la fin, il me restait assez d'autonomie pour me promener dans la ville. Et ensuite, et ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun, j'ai trouvé une borne rapide de 50 kW. Je l'ai branché, je suis allé luncher. 12 $ et une heure plus tard, j'avais 93% de batterie. d'autonomie, dans le fond.
C'était 50 kilowatts?
Ouais. Et ça,
quand même.
Sur l'application du circuit électrique, et quand c'est une grosse borne comme celle-là, on a beaucoup d'informations qui nous est envoyées en direct. Et je voyais vraiment, littéralement, les kilowatts grimper. Et ça y allait à, je pense, 47 kilowatts.
OK. Fait que t'étais pas mal à l'utilisation. Ouais, ouais, ouais. Puis, parce qu'il y a des 100 puis il y a des 150 kilowatts aussi.
Ben là, j'ai pas eu la chance, mais j'imagine que ça aussi, ça doit faire à travers nous. Quand ça fonctionne. Puis effectivement, la EV6 a un mode de charge niveau 3 là, qui peut aller jusqu'à 150 kW.
Voilà. Puis ça, c'est important de le dire parce que des fois, moi, j'ai eu des gens au salon de l'auto électrique qui sont venus me voir à Montréal puis qui m'ont dit, « Hey, le monsieur avait une Bolt puis il était sur une borne 150 puis il dit, je chargeais à 45,6. » J'ai dit, « C'est parce que votre auto peut pas charger à plus que 50. » Donc ça, faut se renseigner quand on achète parce que on peut avoir, bon, 50, c'est correct, là. Mais tu sais, des gens, parce que la borne de 100 puis de 150 coûte plus cher que la 50.
Exact.
Alors, vous allez payer une borne de niveau élevé pour une voiture qui n'est pas capable de le prendre. Donc, vous allez gaspiller de l'argent. Alors, bien vous renseigner quand vous achetez votre véhicule pour connaître ces détails-là.
Il y a un petit peu de stratégie parce qu'en plus, les bornes rapides, quand on reste plus longtemps, la tarification augmente à un moment donné. Fait que,
faut le savoir. Moi, je dis qu'à 80%, là, si vous êtes à côté de l'auto, arrêtez pas allez-vous-en. Pas parce que je veux pas que vous alliez à 100, mais ça va vous coûter aussi cher de 80 à 100 que de 0 à 80.
Exact.
Parce que de nature, la batterie est chaude. Et la vitesse de charge ralentit, mais on vous charge toujours le prix le même. Fait que c'est beaucoup plus long, le dernier 20%, et vous allez payer très cher pour, en fait, pas avoir beaucoup d'énergie. À moins que vous ayez absolument besoin de vos 100%. Mais on a aussi créé ça, puis on le dit pas toujours aux gens, mais pour essayer de faire un peu de fluidité autour des bornes de recharge, là, c'est clair.
Les gens qui stationnent la nuit au complet sur la même borne.
Oui.
En tout cas, détail intéressant parce que ça, on parle vraiment d'autre chose, mais il y a une petite odeur de pile qui chauffe hein, quand on fait une charge rapide après une heure, là, c'est
oui,
drôle.
Oui. Il y a beaucoup, tu sais, l'ampérage,
ben,
là,
c'est
extrêmement
ça
chaud.
Mettez pas votre doigt là-dedans, c'est sûr
c'est
que c'est.
C'est pour ça que des bornes de 350, tu peux jamais aller plus que 20 minutes, 25 minutes, parce que littéralement, le feu, ben, là, les gens vont me détester, le feu prendra pas.
Non.
Mais c'est tellement
c'est
chaud
c'est beaucoup
que c'est à peu près le maximum qu'on peut mettre.
Exactement. Au volant de la V6, parce que c'est un peu ça le sujet, faut souligner l'effort fait par Kia Hyundai, hein, parce que c'est, ça vaut pour les deux, là, pour rendre leur système multimédia plus agréable à utiliser que celui de nombreuses autres marques. Kia a toutefois oublié d'inclure la version sans fil d'Android Auto et de CarPlay à bord de l'EV6, en tout cas dans le modèle que moi j'ai essayé, ce qui est pourtant inclus de facto dans le système de l'Ioniq 5. Autre irritant, les surfaces tactiles sur la console sont plutôt mal disposées à bord de l'EV6. Y a une espèce de console flottante, là, ou alors, ce qu'il faut faire pour changer les commandes du système multimédia, il faut appuyer son poignet sur le bout du porte-gobelet. Et le bout du porte-gobelet, en fait, c'est les réglages de siège chauffant et climatisé, ces choses-là. Ce qui fait que quand on change le volume, généralement, on allume le siège chauffant. Et quand il fait chaud dehors, comme c'était le cas il y a 10 jours quand j'ai essayé la voiture, ben on chauffe les faufounes et pourtant, il fait déjà 32 et c'est pas nécessaire. Et même au contraire, c'est plutôt fâchant. Bref, l'ergonomie est pas top, mais ça peut être un petit irritant plus qu'un gros défaut. D'ailleurs, parlant des touches de commande du système multimédia, ce sont les mêmes touches qui contrôlent la radio et la climatisation. On peut tourner le volume, mais on peut aussi augmenter la température sur la même molette, en fait. Fait qu'il faut le savoir. Au début, c'est un peu mêlant parce qu'on s'en rend pas compte. Mais il faut trouver l'icône qui n'est pas une icône de système multimédia pour remettre. En tout cas, pour changer ce réglage-là.
Ouais, puis on enfarge toujours les pitons de siège chauffant.
Exactement.
Moi, ça m'est arrivé la moitié du trajet que j'ai fait.
Tu vois, donc je suis pas le seul. Tout ça pour dire que ça, c'est un irritant au niveau de. Bon, écoute, ça, c'est des détails, là, mais c'est quand même de l'interface ou l'interaction. Ça, on touche tout le temps à la climatisation puis à la radio. Puis le fait d'avoir caché tout ça dans les mêmes boutons, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mais bon, sinon. Que de bonnes choses à dire à propos de l'EV6. Pas pour rien qu'elle a terminé au second rang là, du titre de voiture mondiale de l'année. Mais honnêtement, pour ce que j'en sais, en tout cas, ça aurait pu être ex-aequo, là. Si c'était pas du fait qu'il faut attendre un an pour s'en procurer une, en fait, on en verrait certainement
an,
beaucoup plus.
Un an et plus. Ouais, un an et plus, effectivement. Écoute, moi, de mon côté, je suis allé complètement ailleurs cette semaine. Puis j'ai essayé un véhicule que j'étais curieux d'essayer. On n'a pas tellement modifié l'extérieur. Mais on a une espèce de trio chez Mercedes et je me pose toujours la question, pourquoi avoir trois véhicules si proches? On parle de la classe E, de la CLS, puis de l'AMG GT.
C'est de la tradition allemande.
Oui, mais trois? On a-tu besoin d'en avoir trois?
Ça, c'est une autre question.
Bon, parce que j'avais essayé la AMG GT 63. Mm-hmm. Bon, là, cette année, écoute, on va mettre de la technologie de F1 là-dedans. On va mettre l'espèce d'accumulateur là, qu'on a à F1, qu'on peut faire les dépassements.
Oui.
Bon, ben on va avoir ça dans 63 qui donne un 200 chevaux de boost quand t'en as besoin. T'es à 831 chevaux.
On a toujours besoin de 1038
livres-pieds de coupe. C'est une affaire de cingler. Puis c'est bon, je pense, pour une dizaine de secondes. Là. T'appuies là-dessus, puis c'est vient un moment, on est parti. Moi, j'avais le modèle 53 qui est plus, bon, raisonnable. Je mets toujours ça.
Moins insensé.
Oui. L'autre, c'est plus de 200 000. Lui commence à 119 800, mais on le sait, des voitures allemandes, le prix de base ne veut absolument rien dire parce qu'on peut mettre tellement d'affaires.
Faut l'équiper,
Le modèle que j'avais à l'essai est le modèle Manufacture, qui est l'ancien Dynamique. On a changé de nom. Manufacture, c'est une version. En fait, on a une couleur rouge métallique. La couleur est magnifique, là. Puis on a quelques autres attraits avec ça, comme des roues de 21 pouces qui étaient réservées au modèle 63 avant. Et quelques attraits extérieurs. Écoute, l'option est 25 000 $ pour te donner une idée.
Ouch.
J'avais un système audio Burmester de 7 000 $ j'avais aussi la conduite intelligente, qui est une espèce de conduite semi-autonome là, de
commande,
Mercedes.
Quelque chose.
Ouais, bon, ça c'est 2 700. Bref, l'auto que j'avais est à 154 000 $ une fois qu'on a tout mis. C'est un moteur 6 cylindres 3 litres en ligne, turbo, de 429 chevaux, donc il y a de la pédale, puis on a bon le mode confort individuel, on a slippery là, il y a un petit carré de neige, mais c'est un mode mettons la pluie ou quand c'est glissant. Puis on a sport, sport plus et race. Fait qu'on peut porter ça assez loin. Puis même si le 6 cylindres n'a pas la sonorité du V8, on a en masse de pédales pour perdre son permis assez rapidement.
Ouais.
L'intérieur, écoute, c'est extraterrestre. On est ailleurs. Il y a les fameuses buses qui ont l'air ça a toujours l'air des choses de vaisseaux spatiaux, de réacteurs.
Oui.
C'est très beau. T'as deux écrans juxtaposés, tactiles, personnalisables, en couleur, nomme-les. Puis évidemment, quand on change de mode de conduite, on change aussi la couleur de l'environnement, de l'affichage. On a un afficheur tête haute, on a un toit ouvrant panoramique, et c'est un 4 places. C'est pas un... Parce que derrière, c'est 2 sièges, qui sont d'ailleurs assez proches de l'image qu'on a des sièges devant. C'est assez moulant. Il y a une espèce de coin plat, là. Écoute, si vous voulez absolument embarquer quelqu'un, mais tu sais, c'est pas un siège.
Ouais.
C'est vraiment une surface plane, là. Il y a même pas de ceinture de sécurité, là.
Fait que,
c'est un 4 places.
C'est pas de place.
Cela dit, les sièges sont extrêmement confortables. On avait aussi dans le fameux Manufacture, c'est le volant avec toutes les commandes. Ça a presque l'air d'un volant d'F1, là, tellement il y a des boutons. Et t'as des touches haptiques au volant.
Ah oui.
Donc, tu peux aller te promener et vérifier à l'écran avec, il y a la petite maison qui est toujours l'accueil là, pour, c'est pas facile en conduisant parce qu'il y a beaucoup de boutons.
Juste le volant, ça a l'air le fun.
Mais les touches fonctionnent bien. Parce que des fois, les touches haptiques, bon, puis on a toujours l'espèce de tablette, là. Il y a toujours ça du côté de chez... Depuis des années, là, on peut écrire, faire comme un B.
Mm-hmm.
Puis ça va mener des fonctions qui commencent en B. Puis bon, ça, il faut être un technologique avancé pour pouvoir opérer ça, là. Un peu crack. Mais cela dit, comme les autres fonctions peuvent compenser sans qu'on ait vraiment besoin d'aller jouer dans la tablette, ça m'énerve moins que Lexus à une époque où si tu passais pas par la tablette, t'avais rien. Là,
ouais.
Là, il y a des moyens d'éviter, donc c'est moins pire. La conduite, écoute, le siège ou les sièges sont extrêmement confortables, mais c'est une AMG GT. Alors, le confort par rapport, puis surtout que les roues qu'on avait sur le modèle à l'essai sont des roues de 21 pouces. C'est du 315, 30, 21 là, en arrière. On voit pas ça souvent et je veux pas savoir combien ça coûte de la roue. Si on est rendu à 600-700 $ la roue, c'est du Michelin Sport qui avait en plus là, du Sport 4S.
Mm.
Ça veut dire que... 15, 17 000 kilomètres, c'est fini les pneus, là, en pneus d'été.
Ouais.
Si quelqu'un roule un peu, là, c'est un été, ça, là, puis c'est fini, là. Alors, vous allez me dire, s'il paye 154 000, il se cassera pas les pieds pour acheter des pneus. c'est vrai. Mais la conduite est intéressante quand la route est belle. Parce que même en mode confort, j'ai eu affaire à Saint-Hyacinthe cette semaine où je suis allé faire un petit détour pour donner une conférence. Et le bout dans le bout de Saint-Basile-le-Grand, là, c'est une piste de motocross, la 20 maganée dans ce coin-là. Mm-hmm. Puis là, ça cognait dur. Honnêtement, si la route est plane, qu'il n'y a pas d'imperfection, ça va bien. Mais puis là, j'étais en mode confort. Là. Fait que en revenant pour le fun, j'ai mis ça en mode sport. Je me suis pas tapé du sport plus. J'ai dit, je veux garder mon dos. Là. Mais non.
Ça coûte cher en pneus et en frais de kiro, c'est ça?
Probablement.
Ouais.
Cela dit, c'est une voiture qui est non seulement jolie, même très jolie, mais pratique parce que c'est un haillon derrière. C'est pas un coffre. Ben oui, c'est un coffre, mais c'est pas un coffre fermé comme une berline. C'est haillon. Comme la A7. Moi, je dirais, là, A7, Panamera, là, c'est vraiment les deux concurrents de ce modèle-là parce qu'on a la même approche.
Mm-hmm.
Donc, tu me disais tantôt, c'est allemand. C'est allemand parce que quand il y a un Allemand qui sort un modèle, s'il y en a un qui met, un haillon, hop, on va en sortir un avec un haillon. On réplique coup sur coup. Fait que c'est en réplique à ces modèles-là. Et je pense que le modèle 53 est probablement celui qui fait le plus de sens. Parce que 63, ici, ça fait aucun sens. T'as un monstre, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? À part d'être frustré ou de perdre ton permis, ou aller en prison, je sais pas, ça va être un de ces trois-là. Mais cela dit, si vous voulez vous démarquer du voisinage, parce qu'il y en a pas de ces autos-là, là, c'est vraiment unique, et que vous avez un portefeuille plutôt profond.
Puis on va se le dire, les AMG sont populaires au Canada. Et
absolument.
Au Québec.
En fait, moi, j'avais parlé avec les gens de Mercedes. Ça fait quelques années déjà, il faudrait que je remette à jour ma statistique. Mais le Canada était en commande totale, pas au prorata de la population, en commande totale, en volume, le quatrième pays au monde. Puis on s'entend, là, les États-Unis, il y a 10 fois plus de monde que nous autres.
En Europe,
mais tu prends des pays comme l'Allemagne, tu dis l'Allemagne, bon, je pense que l'Allemagne est en avant, mais on était quatrième pour tout ce qui est AMG.
Mm-hmm.
Les gens ici achètent ces modèles-là avec tout dedans. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne, puis c'est pour ça qu'on a amené une version aussi bien équipée dans un modèle qui est pas le plus équipé, parce que ça va attirer du monde, c'est clair. Cela dit, oui, c'est intéressant. Je prendrais un petit peu plus de confort dans la position confort quand on met le mode qui porte le nom.
Il y a une
nom,
classe
mais...
E pour ça.
Ben, il y a une classe E, puis il y a une CLS. Fait que je me suis dit, c'est ça. Fait que si tu veux te faire brasser un peu, t'achètes la AMG. C'est tout. Alors, hey, merci d'avoir été là. Alors, ça termine notre balado cette semaine. La semaine prochaine, ben, on va se retrouver. On va avoir d'autres informations, d'autres modèles à essayer. Moi, je vais parler probablement de la Jaguar, la
I-Pace.
On va faire ça la semaine prochaine. Merci Alain.
Bonne semaine.
Merci à Claude. Merci à Rosemond qui était là avec nous. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.